Mais il écoute.
K ne s'inquiéta pas d'abord de la nature de la place qu'on lui offrait. C'était le fait qu'on la lui proposait qui était important, écrivait Franz Kafka dans Le Château. En ouvrant le grand Robert de la langue française, nous observons pas moins de 17 sens différents officiellement recensés pour le mot « travail ». Le premier sens historique du mot « travail » est en lien avec la douleur, la fatigue, les contractions de l'accouchement. Aux origines de l'homme, même si la survie a nécessité certaines activités collectives, le travail n'existait pas, en tout cas, pas dans son sens actuel. Le monde grec, au VIe siècle avant notre ère, inventera un nouveau système de pouvoir politique, l'état-ville, la polis, dont Aristote définira avec Platon le fonctionnement. Comme le signale la grande spécialiste du travail qui est Dominique Méda, les philosophes grecs, au-delà de leurs différences, partagent globalement la même conception du travail. Il est assimilé à des tâches dégradantes et n'est nullement valorisé. Comme l'écrivait Hannah Arendt, l'institution de l'esclavage dans l'Antiquité, au début du moins, ne fut ni un moyen de se procurer de la main-d'œuvre bon marché, ni un instrument d'exploitation en vue de faire des bénéfices. Ce fut plutôt une tentative pour éliminer les conditions de la vie, le travail. Toute la philosophie grecque est en effet fondée sur l'idée que la vraie liberté, c'est-à-dire ce qui permet à l'homme d'agir selon ce qu'il y a de plus humain en lui, le logos, commence au-delà de la nécessité, une fois que les besoins matériels ont été satisfaits. Peu après, le mot va aussi s'utiliser dans le sens du latin, tripalium. Tripalium, cet instrument d'immobilisation et de torture à trois pieux, utilisé par les Romains pour punir les esclaves rebelles. L'osium, le loisir, reste donc supérieur au labor jusqu'au Moyen-Âge, tout au moins pour les puissants. Il faudra attendre l'intervention de certains pères de l'Église, tel saint Augustin, pour que le loisir se voit soudainement condamné. La notion de travail commence à être une loi de la nature impliquant la satisfaction des besoins. Bien plus tard, Hegel sera le premier à considérer le travail comme essence de l'homme, activité spirituelle elle-même, essence de l'histoire de l'humanité créatrice et d'expression de soi. Progressivement, on utilisera le terme de travail pour définir l'ensemble des activités humaines coordonnées en vue de produire ce qui est utile ou jugé comme tel. Il faudra attendre 1866, même récent, pour que le terme soit officiellement accepté dans la langue française. Je ne vais pas continuer ici, c'est historique, mais enfin, signalons que le travail est une mise en œuvre concrète de compétences professionnelles, d'expérience et de créativité personnelle, mais qu'évidemment tout dépend du contexte et que de nombreux facteurs conditionnent la possible qualité constructive du travail pour chacun. À toute vitesse, disons qu'avec l'industrialisation des structures sociétales, un bouleversement total des rapports humains et de l'organisation du travail s'établit. Division du travail, taylorisme, fordisme, marxisme, lutte des classes, modernisation vertigineuse, précarisation des travailleurs, les dernières décennies ont vu le paysage professionnel se modifier considérablement. Et toute une psychopathologie du travail se développera en conséquence. Troubles somatiques et psychiques se multiplient avec la nouvelle organisation du travail. Troubles musculo-squelettiques, alopécie, dépression, alcoolisme, toxicomanie, psychotropes, tentatives de suicide, déclenchement psychotique, sentiments paranoïdes de persécution, diabète, infarctus, AVC, la liste est longue. Toute une nouvelle clinique de la précarité symbolique face à un réel de plus en plus déchaîné, en somme. Une clinique de la désinsertion subjective, de la déprise du social, de l'autre, toute teintée de solitude et de mutisme, de calvaire subjectif. Certains sociologues des entreprises, tel Bernard Floris, estiment que nous ne sommes plus dans le taylorisme, mais dans le toyotisme. Un ingénieur de chez Toyota a fait faire un pas de plus au modèle américain de division du travail en inventant la notion de flux tendu. La production est alors dictée par les ventes en temps réel. Les stocks entrants et sortants sont alimentés en fonction des ventes afin de réduire les coûts de stockage et bien entendu maximaliser le profit. Si les ventes augmentent, il faut aller plus vite et produire plus. Si elles baissent, il y a réduction du personnel et des moyens. La déshumanisation du fonctionnement professionnel, le plus souvent en entreprise, prend des formes de plus en plus hardes. La convivialité a disparu. Personne n'est jamais content et personne ne sait exactement comment on doit faire. Le travail disparaît. Il est remplacé par un emploi, par un job, par un intérim, par un CDD. Le sens de l'activité humaine se dissout dans son automatisation. Une souffrance psychique, un mal-être subjectif pèse et se diffuse avec grande ampleur. Le chômage, par ailleurs, est à l'origine de 45 000 suicides chaque année dans le monde. Depuis les années 80, avec la déréglementation des échanges économiques, la mondialisation a commencé, avec sa concurrence généralisée et la mise sous la domination des actionnaires de l'ensemble de l'activité humaine. La course au profit implique de réduire les coûts pour faire un maximum de bénéfices. Et la masse salariale est la première, horrible terme, variable d'ajustement. Des dizaines de millions d'individus sont jetés à la rue alors que le travail est délocalisé là où il est encore moins cher et surtout les conditions humaines de production sont encore bien pires. Qui ne se souvient pas ici de telle usine à vêtements au Bangladesh? Il faut produire toujours plus vite, mieux, avec beaucoup moins de moyens matériels et humains, afin de libérer toujours plus et au plus vite les capitaux financiers. Comme le disait fort bien André Gorz dans « Métamorphose du travail et quête du sens ». Ainsi peut s'organiser cette civilisation froide, dont les rapports froids, fonctionnels, calculés, formalisés, font des individus vivants des étrangers au monde réifié qui est pourtant leur produit, et où une formidable inventivité technique va de pair avec le dépérissement de l'art de vivre et de la communicativité. Bourdieu notait « Tout se passe comme si la crise et les difficultés de tous ordres qui en résultent avaient brisé le fondement même de la solidarité ancienne. » Ben justement, est-ce que vous vous souvenez de cet esclave noir américain qui, dans l'Amérique en phase d'industrialisation du 19e siècle, a voulu s'affronter à la machine pour montrer qu'il ferait mieux qu'elle? John Henry. Beaucoup de bluesmen tel Mississippi Fred McDowell lui ont dédié une chanson. Dans l'histoire la plus répandue, John Henry vient au monde grand et fort. Il devient en grandissant l'un des plus grands pousseurs d'acier dans l'effort entrepris au milieu du siècle pour prolonger le chemin de fer de l'Ouest à travers les montagnes. L'histoire raconte comment, la machine supplantant de plus en plus la forme humaine, le propriétaire du chemin de fer achète un marteau à vapeur pour effectuer le travail de ses équipes, en majorité noire américaine. Dans un pari destiné à sauvegarder son emploi et celui de ses équipiers, John Henry défie l'inventeur de la machine. John Henry contre le marteau à vapeur. Il gagne. Mais, à l'issue du pari, sujet à une crise cardiaque, il décède. Les portraits classiques représentent John Henry fixant les rails avec des longs clous, mais les vieilles chansons se réfèrent plutôt à lui perforant la roche pour y placer des charges explosives, ce qui constituait une des tâches les plus dangereuses du creusement des tunnels. Qu'il s'agisse ou non d'un personnage réel, John Henry devint un symbole majeur du travailleur. Son histoire est perçue comme l'illustration archétypique et tragique de la futilité qu'il y a à combattre le progrès technique, si évident dans le déclin des labeurs traditionnels. Quelques défenseurs du travail interprètent sa légende en disant que même en étant le travailleur le plus héroïque dans les pratiques respectées, la direction est plus intéressée par l'efficacité et la production que par la santé et le bien-être des ouvriers. Christophe Dejour, psychiatre et psychanalyste, professeur au CNAM, explore dans son ouvrage « La souffrance en France » la banalisation de l'injustice sociale. Selon lui, dans tous les pays du Nord, les enquêtes montrent que la santé mentale au travail continue de se détériorer et que cela entraîne des coûts exorbitants. La cité tout entière est touchée par ces nouvelles formes d'organisation du travail qui créent une pauvreté croissante et génèrent chez ceux qu'elles excluent du système un ressentiment aboutissant à la formation de nouvelles formes de violence sociale qui détériorent la vie ordinaire dans les villes et leurs périphéries. Cet auteur, Christophe Dejour, pose comme problème principal celui de la tolérance incroyable de nos contemporains au progrès de l'injustice sociale en régime libéral. Il différencie toutefois la servitude volontaire néolibérale du travail vivant de l'intelligence au travail. Selon lui, la majorité des gens peut être enrôlée au service d'un système dont pourtant elle désapprouve profondément les méthodes. Et les nouvelles formes d'organisation du travail produisent de nouvelles formes de souffrance professionnelle inédites. Le problème devient alors celui du développement de la tolérance à l'injustice. La nouvelle organisation du travail a ses contraintes, contraintes de temps, de cadence, de formation, d'information, d'apprentissage, de niveau de connaissance, de diplôme, d'expérience, de rapidité d'acquisition intellectuelle et pratique et d'adaptation à la culture ou à l'idéologie de l'entreprise. Divers phénomènes inhérents du travail contemporain en ressortent. La crainte de l'incompétence, la contrainte à mal travailler, sans espoir de reconnaissance entre souffrance et défense. et la parole ne circule plus dans l'entreprise. Dans leur ouvrage « Pendant qu'ils comptent les morts », Marin Ledin, sociologue ayant travaillé pour France Télécom, et Brigitte Fonlebray, médecin du travail et psychiatre ayant reçu beaucoup de ses salariés, expliquent que lorsqu'il y a eu la vague de suicides à, enfin moi j'ai plus la tendance à appeler ça France Télécom, où entre janvier 2008 et décembre 2009, 32 personnes se sont suicidées, la direction avait d'abord mandaté des psychiatres et des psychologues pour accueillir les dires des travailleurs en difficulté. Ironie du sort, face à l'ampleur de la parole en souffrance, France Télécom a décidé d'ouvrir un call center d'assistance psychologique. Pas une consultation, un numéro vert, alors que parler dans le sens de retrouver sa place dans le collectif est un point d'appui essentiel à l'amélioration de la souffrance au travail. On vous donne des loisirs pour que vous alliez chercher un billet à la gare de Lyon. Il s'agit d'abord de le payer, puis de se transporter dardard au sport d'hiver, où pendant 15 jours, vous vous appliquerez à un solide pensum, consistant à faire la queue au bas des téléskis. On n'est pas là pour rigoler. Le type qui ne fait pas ça, qui ne va pas travailler au loisir, il est indigne. Autrement dit, de nos jours, le refus du travail, ça relève d'un défi. Ça se pose et ça ne peut se poser que comme un défi, prononçait Jacques Lacan dans son séminaire d'un autre à l'autre en 1970. Selon Yves Clos, titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM, la fonction psychologique du travail réside précisément dans la séparation qu'il introduit entre les préoccupations personnelles du sujet et les occupations sociales dont il doit s'acquitter. Bien sûr, l'aliénation n'en est jamais totalement absente, puisqu'on ne travaille pour soi qu'en travaillant pour d'autres. Travailler consiste à vivre dans l'univers des activités d'autrui, à se diriger dans cet univers, à agir sur ses propres activités et sur celles des autres. C'est pourquoi on peut dire que le travail, par l'entremise de sa fonction sociale, remplit une fonction psychologique spécifique. Autrement dit, le travail est un acte social qui porte la réalisation de soi au-delà de soi, qui suspend l'accomplissement personnel au développement du rapport avec autrui. C'est une activité qui rattache chacun à l'activité des autres et à quelque chose d'autre qui les tient ensemble. Le travail est démarcation d'avec soi-même, inscription dans une autre histoire. À voir si celle-ci tourne au drame, à la dépersonnalisation ou au burn-out ou à pire, ou si la vie professionnelle entend faire œuvre de civilisation du réel, qui s'interpose entre chacun et tous, mais aussi entre soi et soi, histoire ancienne qui traverse chacun et avec laquelle chaque histoire singulière doit s'expliquer. Ce devenir qui dépasse chacun lui rend paradoxalement disponible ce lien impersonnel commun dont finalement il doit aussi répondre, au risque de se couper d'une source vitale d'énergie. De ce point de vue, le travail plus qu'impersonnel est transpersonnel, comme l'est à son tour le langage. Dans cette perspective, travailler, c'est donc transformer son activité propre en fragment d'un discours commun, si l'on nous permet de ce déplacement du vocabulaire de la psychanalyse qui servait à Jacques Lacan. Le travail peut aussi servir à dissiper les illusions du moi. Mais parvenu à ce point, l'expérience en clinique du travail ne laisse plus de place aux illusions. Massivement, aujourd'hui, cette œuvre commune à poursuivre fait défaut à l'activité du sujet, qu'il en soit exclu par le désœuvrement du chômage ou séparé par les aliénations du travail au sein desquelles cette œuvre se trouve ravalée. Comme le note malicieusement Georges Canguilhem, je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l'existence et de créer entre les choses des rapports qui ne reviendraient pas sans moi. Au contraire, en l'absence d'attendu générique disponible, on peut montrer que la santé se dégrade en milieu de travail. Le collectif professionnel se réduit à une collection d'individus exposés à l'isolement. Du coup, quand le métier ne parle plus, il n'est pas rare que les personnes en fassent une maladie. Mais alors, fondamentalement, c'est le métier qu'il faut soigner dans tous les sens du terme, car c'est d'abord lui qui est en souffrance. À la façon de Jean Houry, qui disait « Soigner les malades sans soigner l'hôpital, c'est de la folie. Si les travailleurs sont maltraités, c'est qu'on maltraite le métier. » Alors la perte de sens de l'activité la dévitalise, la désaffecte, en rend psychologiquement factice la poursuite du travail. Alors on est en activité sans se sentir actif. Et trop souvent le système, la société se décide à soigner les personnes alors que c'est le travail qu'il faut soigner. Et il ne suffit pas de requalifier le réel pour l'aseptiser à bon compte. Il y a des risques mais aussi de ressources dans toute situation professionnelle. La principale vertu de la médecine sociale est d'autoriser le retour et la reconnaissance de la souffrance sur la scène politique. Le principal pour les travailleurs et pour leur santé mentale reste qu'ils doivent laisser une empreinte dans l'organisation du travail. Comme le disait un intervenant du film de Pierre Carl, « Volem rien foutre, al país », le problème à l'heure actuelle, c'est que les gens sont obligés de faire des merdes pour vivre, et que malgré tout, ils perdent leur emploi, et que si certains restent debout, nombreux sont ceux qui sombrent. Et pour certains, les plus touchés, il ne reste plus que la rue comme dernier refuge. La vie va se faire. Les événements vont se dérouler. Les conflits spirituels se résoudre, et je n'y participerai pas. Je n'ai rien à attendre ni du côté physique ni du côté moral. Pour moi, c'est la douleur perpétuelle et l'ombre, la nuit de l'âme, et je n'ai pas une voix pour crier, écrivait Antonin Artaud dans l'Obélique des Limbes. Fin janvier 2015, on pouvait lire sur le site de la RTBF « Accueil des chômeurs en fin de droit, la révolte des CPS ». Le dernier filet de protection, définition qu'en ont nombre de ses usagers, étant surchargé. Plus de 30 000 exclus du chômage, rien que pour la Belgique francophone. L'exclusion est le nom de ce qui n'a pas de nom. C'est le nom d'un réel. Il est difficile de fermer les yeux sur ce réel, de faire preuve de ce que Patrick de Clercq nomme une folle ataraxie. Faire comme si tout allait bien n'est plus décemment possible, explique-t-il dans son livre « Les naufragés », issu de 15 ans de travail avec les clochards de Paris, que je ne peux malheureusement ici qu'évoquer. J'en viendrai donc à mes conclusions provisoires. L'emploi est mort, vive le travail. D'ici une vingtaine d'années, l'automatisation va continuer de déferler sur tous les secteurs de l'économie mondiale et signer la mort définitive de l'emploi. Et si c'était une vraie bonne nouvelle? Parce que l'emploi, cette activité privée de sens qui est sanctionnée par un salaire, a détruit le travail, explique le philosophe Bernard Stiegler. Et parce que la fin de l'emploi est l'occasion de réinventer le travail au cœur de nos sociétés du numérique, de construire une économie contributive en lieu et place de cette économie de l'incurie qui nous détruit à petit feu. Remplacer l'emploi, ce fauné de l'incurie qui nous ronge, par le travail au sens des artisans et des artistes, qu'ils soient du numérique ou d'ailleurs. Par ailleurs, comme le rappelle Jacques-Alain Miller, le psychanalyste est un ami de la crise. Entrer en analyse constitue toujours pour le sujet un moment critique qui répond à une crise ou en révèle une. Seulement, une fois commencé, l'analyse est un travail. Foin des crises. Les crises de larmes, on attend que ça passe. Les crises d'angoisse, voire de panique, on les désamorce. Les crises de folie, on évite de les déclencher. En un autre sens, chaque séance est comme une petite crise. Crise qui connaît paroxysme et résolution. Bref. Il y a crise au sens de la psychanalyse quand le discours, les mots, les chiffres, les rites, la routine, tout l'appareil symbolique s'avère soudain impuissant à tempérer un réel qui n'en fait qu'à sa tête. Une crise, c'est le réel déchaîné, impossible à maîtriser, l'équivalent dans la civilisation de ces ouragans par lesquels la nature vient périodiquement rappeler à l'espèce humaine sa précarité et sa débilité foncière. Mort, jouissance et répétition. Ce sont les trois faces d'une pyramide dont la base est donnée par la nature inconsciente de l'argent. Celui-ci est de l'ordre de l'objet anal. Qu'est-ce qu'on aperçoit dans ce moment de vérité que constitue une crise financière? Mais que tout ça ne vaut rien. Que l'argent, c'est de la merde, quoi. Voilà le réel qui déconcerte tous les discours. Et on appelle ça poliment les actifs toxiques. Pour ne pas conclure, la question qui se pose est: pouvons-nous conserver au travail sa fonction possible d'opérateur de santé? Il semble urgent de passer de la gestion des ressources humaines à la gestion humaine des ressources. Peut-on encore espérer vivre au travail plutôt que juste en vivoter? Enfin, laissons la parole au poète. Une vraie pièce de théâtre bouscule le repos des sens, libère l'inconscient comprimé, pousse à une sorte de révolte virtuelle, écrivait Antonin Artaud dans Le théâtre et son double.